l'on passe à présent au deuxième film de la soirée, qui n'est peut-être pas très éloigné du Mastermind, ainsi que Corentin, tu l'as justement fait remarquer, mais moins parce qu'il a également été produit par Mubi, que décidément on voit pas mal sur les écrans de cinéma cette année entre Jarmusch, Rijkaard et celui-ci. Moins donc parce qu'il a été produit par Mubi que parce qu'il traite d'un homme également caractérisé par une certaine forme, disons, d'apathie, quoique dans un contexte tout à fait différent. Ici, dans la Grazia, en effet, nous sommes dans une Italie contemporaine, alors une réalité alternative à la nôtre, ou peut-être très légèrement anticipée. Et le président de la République, Mariano De Santis, arrive au terme de son mandat. Ce personnage fictif, incarné par Tony Servillo, qui a obtenu la coupe Volpi du meilleur acteur pour ce rôle à Venise, donc ce personnage juriste de formation, comme d'ailleurs bien des présidents italiens depuis la fondation de la République en 1946, est un homme de consensus. Surnommé béton armé par l'armée, par ses amis ou par la presse, on comprend au fil du film que son intransigeance patiente, redoublée de la stabilité de la fonction présidentielle, a empêché des crises constitutionnelles et a sauvé l'Italie d'un président du Conseil fou, comme beaucoup le disent. On ne saura pas beaucoup plus, et que ce président, donc De Santis, peut sortir du Quirinal, le palais présidentiel, avec la fierté et l'assurance du travail bien fait. Du reste, la politique n'est pas vraiment le cœur du film, alors on apprend à un moment que De Santis est un démocristiano, un démocrate chrétien, mais cette information vise plus à en faire le représentant d'une politique italienne définitivement passé, la démocratie chrétienne n'existe plus depuis longtemps, de même en fait que l'espace de centre-droit qu'elle a occupé pendant des années, des dizaines d'années. Et ça, donc voilà, c'est plus pour le situer là, dans cette tradition, que ça ne représente d'enjeu pour le film. Pourtant, La Grazia semble se préoccuper de dilemmes proprement politiques. Dans les 6 mois qui lui restent, en effet, De Santis va devoir décider de signer ou non une loi légalisant l'euthanasie et d'accorder ou non la grâce à 2 prisonniers. Alors l'une, Isa Rocca, a tué son mari violent, et très violent même, et paranoïaque dans son sommeil, et l'autre, Cristiano Appa, a... un professeur très aimé de ses élèves a étranglé son épouse atteinte d'Alzheimer et s'est constitué prisonnier immédiatement après. Tous les deux plaident ainsi une forme d'euthanasie, donc ça se relie un petit peu. Tout se relie, oui, sur des questions sociales brûlantes, et pourtant la focale de Sorrentino est d'abord intime. On ne sort quasiment jamais en fait du Quirinal. Et on partage par des voix off, par des plans silencieux et par une mise en scène qui gravite continuellement autour de lui. On partage donc le point de vue, les doutes et les questions de De Santis. Ce film prend donc la forme d'un huis clos, en fait, d'une certaine façon. L'intrigue est sommaire, l'enjeu surtout moral et psychologique, et les personnages peu nombreux. Alors on compte sa fille, qui a passé sa vie à aider son père. Elle ressemble à ce titre beaucoup à Claude Chirac, la fille de Jacques Chirac. On compte Massimo, le chef de l'escorte du président. Et puis des personnages plus secondaires, comme le pape, comme son ami Hugo, ministre de la Justice et candidat putatif à la succession de Mariano, ou comme encore, et comment l'oublier, Coco Valori, une vieille amie de Mariano, sans doute sa meilleure amie, critique d'art flamboyante et unapologétique. Vous savez sans doute que j'aime bien ce mot, comme j'ai déjà dit à la tribune. Alors bon, je disais que l'intrigue était plutôt simple, c'est un peu inexact, puisque s'y rajoute encore un astronaute italien dans l'ISS, une envie du président de découvrir le rap italien contemporain, un cheval malade, et donc l'obsession aussi de Mariano, à savoir avec qui sa femme, morte 8 ans plus tôt, l'a trompé il y a 40 ans. Le tout donc avec la mise en scène caractéristique de Sorrentino, empreinte de grandiloquence et d'effets esthétisants, auxquels je reconnais, moi, être assez sensible, plus en tout cas ici que je ne l'avais été devant Parthenope, un film qui avait bien été éreinté à cette tribune, et à juste titre. Bref, pour tout vous dire, j'ai vraiment aimé La Grazia, qui vieillit vraiment bien dans mon esprit à mesure que j'y repense, retrouvant là le Sorrentino que j'apprécie, que je connais, celui d'Il Divo, et surtout celui de la série The Young Pope, The New Pope, dont, à nouveau, j'ai parlé plusieurs fois sur ces ondes. Il est clair que le réalisateur est plus à l'aise pour écrire l'histoire d'un vieil homme que celle d'une jeune femme, et qu'il est particulièrement touchant ici. Alors, loin du ratage annoncé par exemple par les cahiers du cinéma, cette variation sur la peur de vieillir et de mourir s'ancre dans une belle tradition cinématographique italienne de films sur le pouvoir, tout en la renouvelant par l'esthétique sorrentinienne, faussement superficielle, et par laquelle affleure en fait une émotion et une profondeur discrète. comme dans sa série The New Pope et The Young Pope d'ailleurs. Là où Parthénopée se gargarisait d'aphorismes philosophiques pitoyables et parlait en continu, ici la parole est un petit peu plus rare et seule une question un peu abstraite revient scander le film, mais elle gagne en valeur au fur et à mesure. À qui appartiennent nos jours? À qui sont nos jours? On le saura peut-être en débattant. En attendant, la parole, elle est à toi, Corentin, puisque tu as déjà évoqué ce film dans la première partie de l'émission.
Oui, oui, oui. Et j'ai enfin trouvé la grâce avec Paolo Sorrentino et sa n'était à l'origine pas franchement gagné, hein, étant donné que le peu de choses que j'avais vu de lui, aka la grande Debellezza, avait largement suffi à me forger une vision plus que négative de son cinéma que je trouvais d'un mauvais goût douteux. Mais déjà, c'est tout bête, mais c'est la polysémie du mot Grazia qui est pour le coup très bien choisie. Je suis arrivé sans trop savoir ce qu'on allait me raconter, mis à part que Tony Servillo jouerait le président de la République italienne dans un futur plus ou moins proche, quoi. Avec mes préjugés sur l'emphase pompeuse de Sorrentino, qui d'ailleurs est avérée, hein, mais on en reparlera, je m'imaginais avant tout la promesse d'une grâce esthétique et spirituelle, presque chrétienne, en somme un sentiment de béatitude, un état d'apesanteur. Et je ne dis pas que cette idée de la grâce est absente dans le film de Sorrentino, à l'image de cet astronaute en larmes, ne se sachant pas en connexion avec la présidence et ne voyant pas le président Mariano De Santis tendre le doigt vers une larme flottante que l'écran ne permet pas de percer. La grâce simple, prosaïque, celle de la diégèse, c'est d'une part la grâce présidentielle, et puis d'autre part, cette autre grâce présidentielle qui serait la loi sur l'euthanasie déjà votée par les parlementaires italiens et qui attend seulement la signature du président de la République. Donc si Sorrentino ne délaisse pas l'emphase, il nous assomme moins de ses lourdeurs baroques, et le film est aussi plus simple et plus resserré dans le temps, et il arrive à être vraiment émouvant, je trouve, dans toutes les forces qui le travaillent. C'est paradoxalement un film irrigué par la vie qui recèle pourtant quelque chose de désuet, puisque je faisais le lien entre ce qu'il y avait de désuet dans Mastermind et ce qu'il y a de désuet ici. Comme tu le disais, les hommes d'État sont tous des hommes, déjà, ils sont vieux, le président De Santis est obsédé par la tromperie de son épouse décédée alors que cette tromperie remonte à il y a 40 ans déjà. Il se revendique comme démocrate chrétien, voilà, bon, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Sa meilleure défense, eh bien, c'est l'inaction ou l'inhibition face au changement, non pas qu'il soit réactionnaire, seulement il vit dans une autre époque, il en est resté à la démocratie chrétienne du compromis et finalement ce sont vraiment les forces vives de la jeunesse ici qui prennent le dessus, soit par le détachement d'unifamilial ou alors du détachement face au pays, ou alors du détachement face à la voie toute tracée. Je pense notamment à la fille de De Santis. Et donc, j'aime bien en fait ce que la jeunesse insuffle de vie dans ce film. Et je trouve que, bah, pour le coup, c'est un film très vivant. Et bien, merci en fait.
Et tu dirais merci aussi, toi, Clément ?
Je ne sais pas si je dirais merci. Louis, tu parlais de la façon dont le film vieillissait dans ta tête. Moi aussi, il vieillit de façon un peu plus étrange, un peu plus nuancée. Je vais commencer, alors, avant même de donner mon avis, par exposer le fait que je ne connais du cinéma de Paolo Sorrentino que Parthénopée. J'imagine bien que c'est pas la meilleure des images à avoir de son cinéma. J'ai entendu du bien de pas mal d'autres films du bonhomme. Cela étant dit, Parthénopée, j'essaierai de revenir un peu plus tard là-dessus, m'avait laissé une impression, bon voilà, comme tout le monde, c'est male gaze le film, donc c'est très très gênant, mais il y avait des petites bizarreries, voilà, qui m'avaient intrigué et qui m'avaient laissé une impression au moins un peu complexe, et j'ai un peu ce sentiment, même si plus positif sur le film, de petites bizarreries qui m'interrogent vis-à-vis de la Grazia. Autre biais que j'expose, et du coup ça m'intéresse de discuter avec vous du film, je connais rien, strictement rien, de la politique italienne, à part que j'ai vu Esterno Notte de Marco Bellocchio, et voilà, sinon, vraiment, la démocratie italienne, comment ça fonctionne et tout, je ne connais pas. Mon impression générale sur le film, pour commencer, c'est que sans être transcendé, je ne me suis pas ennuyé. Bien que le film, j'ai trouvé qu'il traînait un peu en longueur.
Il dure 2h20 presque.
Voilà, et je trouve que les 20 dernières minutes environ, j'ai eu le sentiment de savoir, d'avoir un très très long épilogue, puisque je savais à peu près quels allaient être les choix du personnage. J'avais l'impression que le film n'avait plus vraiment d'enjeu et avait du mal juste à laisser partir, même s'il se passait des choses intéressantes. J'ai pas mal ri devant ce film. Il y a pas mal d'effets comiques qui, chez moi, ont fonctionné. J'ai été touché par certains points. je noterai le cœur émotionnel du film, qui est la relation que Mariano De Santis entretient avec sa défunte femme. Et c'est le cœur du film, qui lui parle en voix off, et les images impressionnistes de la campagne qui passent comme ça. Je trouve ça assez touchant, la question du vieillissement aussi, de la mort qui approche. Et puis il y a un plan qui m'a soufflé dans ce film, le plan où le personnage d'Isa Rocca ouvre les yeux. Voilà, c'est simplissime, elle a des yeux bleus, très perçants, elle les ouvre, c'est magnifique, je trouve, en tout cas, voilà, moi ça m'a touché. C'est tout simple, mais voilà. Maintenant, pour aller vers un peu, et on en discutera ensemble avec plaisir, moi ce qui m'a interrogé avec le film, lors de la séance même, et qui continue de m'interroger de plus en plus, c'est la question de la politique dans ce film. Parce que malgré tout, ce film propose donc un monde alternatif avec un président qui n'existe pas, un président juriste qui prend des décisions fondées sur le droit et sur le bon sens. Donc vous expliquez, il y a eu pas mal une tradition de président juriste en Italie, ce que j'ignorais. Effectivement, moi, lors de la séance, j'ai eu l'impression d'avoir une représentation assez naïve du pouvoir de la présidence, une naïveté étrange dans cette représentation, et où j'ai eu du mal à saisir, mais c'est aussi mon ignorance de la politique italienne, les fondements idéologiques qui apparaissaient. J'avais l'impression que beaucoup de questions économiques, idéologiques, politiques étaient laissées en creux, soit en absence totale, soit pas vraiment traitées. Par exemple, le président a quelques confidentes dans le film, que ce soit son ami Coco Valori, qui est de la grande bourgeoisie culturelle, artistique, ou alors il parle au téléphone à un moment avec la directrice de Vogue. Les rapports, il y a une question économique à cet endroit-là, il y a une question culturelle qui n'est pas directement traitée par le film. Alors je ne demande pas un discours militant, je sais très bien que ce n'est pas de ça dont il s'agissait, mais voilà, ça m'intriguait. De même, le film tourne, les questions de la grâce tournent autour d'une femme qui a tué son mari violent et d'un mari qui, apparemment doux et apprécié de sa communauté, qui a tué sa femme. J'ai du mal pourtant à voir la façon dont le film traite ce qu'il propose comme point de vue sur les relations de genre. J'ai du mal à le saisir. Et j'ai l'impression que... Et aussi, autre élément, je ne m'y connais pas assez, donc comme je disais, mais ce président juste, bon et aimé de tous, pour moi, un Français en 2026, ça me paraît surréaliste, mais pourquoi pas. Est-ce que c'est une projection d'un genre d'Aldo Moro face aux problématiques contemporaines? Mais du coup, qu'est-ce que ça dit du pouvoir historiquement en Italie, qu'est-ce que tu as dit du pouvoir aujourd'hui en Italie, donc qui n'est plus le même. J'ai l'impression, et pour faire simple et court et qu'on en discute après, que cette représentation du pouvoir de la politique est apolitique, ou au moins très centriste, et d'un apolitisme presque étrange et presque absurde, qui, selon moi, absorbe et sape tout ce qui devrait venir le troubler, et le porte un peu par cosmétisme, par coquetterie. C'est-à-dire qu'il y a une matrice dans ce film, c'est le pouvoir, la justice, le président avec son corps, Mariano, qui a un régime, qui est tout droit, les cadres qui sont larges mais bien posés, l'image de la campagne, l'image des grands bâtiments, et puis il y a tout ce qui devrait le troubler, l'intervention, le rap, la techno, la question de l'infidélité, la question de l'euthanasie, tout ça. Et au lieu que ça vienne le troubler, j'ai l'impression que toutes ces choses viennent accompagner cette matrice, ne viennent jamais la percer. Tout est du même ordre que le régime de Mariano, qui est très contrôlé, son petit vice de la cigarette. Toutes ces petites choses sont comme des petits vices. C'est c'est cosmétique. Et rien ne vient profondément perturber l'édifice du pouvoir, perturber le corps même de Mariano. Il est peut-être un peu rigide, mais à force d'étirement, il saura se montrer souple. Et pendant ce temps, personne ne meurt de faim, personne n'a froid dans les rues. Alors évidemment, c'est pas désagréable, puisque ça ne cesse d'être rassurant. Et le film parvient à parler d'euthanasie et de violence conjugale, tout en restant feel good. Ce qui est un prodige assez étonnant.
Merci beaucoup à tous les deux pour vos avis. Alors pour répondre et lancer la discussion précisément sur l'aspect politique du film, ou apolitique ou dépolitique, que tu évoques, Clément. Alors pour ce qui est de la question de la figure du président en Italie, c'est effectivement une figure qui n'a rien à voir avec celle que nous on peut effectivement imaginer. Enfin, c'est pas Macron. C'est beaucoup plus proche du roi ou d'Angleterre, par exemple. Et typiquement, en fait, moi, ça m'a beaucoup frappé. Donc, il y a eu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver en Italie vendredi dernier. Et le président de la République est apparu. Il a 82 ans aussi, et il a été ovationné, applaudi exactement comme dans le film de Sorrentino, quand le président se montre à la Scala de Milan. Et d'ailleurs, en fait, le président est apparu au stade à Milan, à San Siro. C'est assez amusant pour ça. Le président actuel en Italie, c'est Sergio Mattarella. Et en fait, il incarne exactement ce que Mariano De Santis incarne dans ce film-là, c'est-à-dire une politique qui, à laquelle on ne connaît pas de successeur, on ne connaît pas d'héritier ou d'héritière. Et il incarne une rigueur, une droiture morale, même aux yeux des Italiens. Enfin, du coup, ça m'a vraiment intrigué. J'ai regardé, 63% des Italiens en ont une excellente opinion. Ils sont 34 pour en avoir une aussi bonne opinion de Meloni, par exemple. C'est un président qui... à l'inverse, par exemple, du roi d'Angleterre, sait prendre position, enfin, a le droit aussi de prendre position et de critiquer ouvertement les choix qui sont faits par le gouvernement d'extrême droite actuellement en place en Italie. Et en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse dans ce film, c'est que l'élection présidentielle prochaine, il me semble qu'elle est en 2027 pour les Italiens, et Mattarella... Non, pas 2027, elle est encore plus tard, pardon. Mais Mattarella, il avait été reconduit à la présidence de la République, alors qu'habituellement, un président ne fait qu'un seul mandat, parce qu'il y avait eu impossibilité de trouver un successeur à son premier mandat. Et il a été, alors même qu'il avait déclaré exactement comme De Santis vouloir partir, il avait été reconduit pour un deuxième septennat, ce qui habituellement ne se fait pas. Et en fait, je pense que c'est là qu'est le côté politique du film, c'est-à-dire qu'à l'inverse d'Il Divo, par exemple, qu'un autre film de Sorrentino, pardon, qui fait le portrait d'une figure pour le coup historique de la politique italienne, Giulio Andreotti, qui a vraiment radicalisé le centre droit vers une droite libérale, pas d'extrême droite, mais qui a en fait créé le chemin pour Berlusconi, qu'il a ensuite créé pour Meloni et pour Fratelli d'Italia. Ici, donc avec ce personnage fictif, mais très largement inspiré, un des commentaires les plus likés sur Letterboxd, bon, ça veut dire ce que ça veut dire, dit que Mattarella a déjà son biopic. Bref, donc moi je suis assez sensible au côté élégiaque en fait qu'il y a dans de la politique italienne et qui est assez triste, même très très triste au fond, qu'il y a dans ce film-ci. Je conçois que c'est pas la charge la plus radicale politiquement qui soit, mais je trouve le film assez fort là-dessus, et notamment en fait c'est le sens que j'ai vu dans sa fin qui, moi, enfin, dans une de ses dernières séquences, je suis d'accord avec toi, Clément, elle s'éternise un peu trop, toutes les dernières séquences, il y en a trop. Mais il y en a une qui, je croyais être la fin d'ailleurs, c'est cette fin touchante et terrifiante, même où De Santis avance dans la rue, il quitte le Quirinal, il est précédé d'un Digidog, ces espèces d'horribles chiens robotisés qui sont en fait l'avenir de la police et qu'on voit dans les salons d'armement. Il est suivi par son escorte. Et en fait, donc cette dernière scène, elle intrigue pour plein de raisons, parce qu'il y a l'ambiguïté du film. Est-ce que t'as tout le monde autour qui le regarde avec respect, mais est-ce que c'est vraiment du respect pour cette figure ou par peur du fait qu'il y a littéralement un chien guide robot par intelligence artificielle qui peut tirer sur des gens qui le précèdent? Et puis en plus, cette dernière scène, elle est à la fois certes un chemin vers la libération, c'est le truc principal qu'on se dit, mais en fait aussi une forme de cortège funéraire. C'est-à-dire que je trouve que la fonction de présidentielle ne le quitte pas, à la fin, à l'inverse de la fin de Buongiorno Notte de Bellocchio, qui montrait un homme politique italien réel, cette fois-ci ce que tu as cité, Clément, Aldo Moro, qui s'évadait de sa prison et marchait seul, gaiement se promenait dans les rues romaines. Ici, il y a un silence empesé, une lenteur qui sont presque funéraires et qui détonne dans un film qui est autrement une espèce de large plaidoyer pour la vie en général, on pourra en reparler. Mais donc voilà, c'est ça moi qui m'intéresse sur la question politique du film. En fait, je pense que certes, il ne propose rien, mais il a une charge politique dans la mesure où il fait le constat, certes sous un vernis feel good, mais d'un monde définitivement décédé, et qui me le rend encore plus touchant.
Oui, une sorte de constat, ouais, un constat doux amer un peu, disons, parce que oui, on n'en sort pas avec des idées noires forcément. Il y a, comme je le disais, cette jeunesse irradiée de vie en fait et remplacée, on va dire, les vieux quoi, enfin, on va dire les vieux politiques. Et donc dans ce cas-là, oui, forcément, on n'en ressort pas totalement. Désenchanté en se disant ah oui bon ces vieux là ils ont plus rien à faire en politique, mais de toute façon ils vont se remplacer les uns après les autres, on retrouvera les mêmes et malgré tout ils avanceront sans la certitude, nous avec la certitude qu'ils sont dans une époque qui est en déphasage avec l'époque, mais eux sans cette certitude là donc non, je trouve pas que le film arbore on va dire ce masque là Et même si je dirais que, et sur la question de la politique, je te rejoindrai quand même, Clément, oui, c'est pas un film franchement... Oui, c'est pas un film franchement politique. Sorrentino n'est pas Moretti. Hein. J'ai dit que je me suis réconcilié avec Sorrentino. Faudra voir ce qu'il en sera par la suite.
Après, visiblement, tu partais de très loin.
Mais je partais de très loin, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup Moretti. Bon, ce film, ce n'est pas Moretti. Hein. Faut pas non plus. Sorrentino reste Sorrentino. Il a son emphase. Mais bon, j'étais quand même agréablement surpris et je n'ai pas non plus, encore une fois, gâché mon plaisir, d'autant plus qu'on se situe aussi sur comme une idée, moi ça m'a fait penser un peu à L'exercice de l'État, un film français de Pierre Schroeder ou Peter Schroeder, excusez-moi, j'ai oublié le nom du réalisateur, mais en tout cas ça m'a fait penser à ce film dans le sens où il y a la politique.
Pierre Schroeder.
Pierre, merci. La politique avec son monde des grandes idées, on va dire, assez contestable, mais qui se prêtait plutôt bien au jeu quand il s'agissait de parler d'époque en fait et de grandes idées qui traversaient l'époque, de grandes idées comme l'euthanasie, comme la grâce vis-à-vis des relations, enfin vis-à-vis du coup de ce féminicide et de du coup cette femme battue qui a dû tuer son mari en fait pour se sortir de là et qui nous fait forcément penser à la grâce de Hollande il y a quelques années quoi. Donc ça me semblait pas non plus hors de propos que de proposer cette vision là on va dire des grandes figures et des grands qui symbolisent en fait, qui incarnent ces grandes idées. Je pense notamment à la figure du général, hein. On a les conseillers, on a le secrétaire qui n'est pas toujours d'accord avec du coup le président de la République, on a du coup le général comme je le disais, on a en effet des figures des figures idéologiques qui incarnent en fait des forces morales qui travaillent le président, on a le pape aussi, et ça je trouve ça assez intéressant.
Sur cette question-là, je reste vraiment dans le doute parce que toutes les figures qui entourent le président, il me semble, n'amènent pas véritablement de conflit autre qu'un conflit intérieur qui est déjà mis en branle. Le président est bon, juste, il connaît la loi et donc il n'est question pour lui que d'avancer presque, d'accepter la marche du monde qui a déjà commencé à marcher sans lui. Donc finalement, s'il n'y a pas de conflit entre le président et ses interlocuteurs, puisque tout le monde le respecte, s'il n'y a pas de conflit entre le président et le peuple, puisque le peuple on ne le voit pas, s'il n'y a pas de conflit même intérieur vraiment au président, puisque ses décisions sont presque évidentes pour lui-même et il lui faut juste du temps de réflexion, alors lui, on lui reproche. Mais malgré tout, c'est de ça dont il s'agit, alors où est le conflit? Et si on ne voit pas le conflit, où est la politique? Pour moi, vraiment, ce dont il s'agit sur les questions politiques, et ce sont des questions politiquement très contemporaines et très importantes que celles des violences conjugales, des relations de genre, mais aussi que celles de l'euthanasie, des questions très complexes. Et selon moi, je suis assez convaincu qu'il n'est pas artistiquement ou politiquement, entre guillemets, pertinent, si je puis me permettre d'utiliser ce terme qui n'est peut-être pas le bon, de représenter le pouvoir de cette façon apolitique. Selon moi, ça participe d'une représentation apolitique de la politique, sous-entendu une représentation hégémonique, sous-entendu dominante, qui ne fera que reproduire les dominations. Et à cet endroit, j'ai le sentiment un peu de retrouver ce qui me troublait dans Parthénopée, c'est-à-dire une représentation tellement habitée par le même gaze, mais de façon tellement grandiloquente qu'elle a peut-être quelque chose d'un peu étrange, d'un peu troublant, mais reste que c'est la domination, une représentation dominante, une représentation masculine, peut-être troublée, peut-être étrange, mais une représentation dominante. Cependant, et c'est là où je trouve beaucoup d'intérêt au film, et où en tout cas j'ai apprécié le voir ainsi, c'est, et tu en parlais Louis avec cette scène où on a ce digidog, c'est ça, cette espèce ouais. de chien policier mécanique là, très étrange, il y a une espèce d'étrangeté dans le film, alors qui est peut-être, c'est une interprétation possible que moi-même je peux avoir, juste une forme de coquetterie, mais peut-être qu'il y a autre chose, et moi j'ai envie de m'accrocher à ce peut-être qui m'a tenu pendant la séance de toutes ces choses un peu étranges, toutes ces petites bizarreries. Je pense au président qui se met à rapper, à ce chien gendarme, à la techno qui apparaît régulièrement dans le film et qui vient casser le rythme ou lui donner un...
Même les images à l'écran. Enfin, y a une espèce, c'était vraiment une musique de rave qui vient en contrepoint de scènes qui n'ont rien à voir.
Absolument. La scène du président portugais aussi. Alors, ce ne sont pas des bizarreries qui viendraient saper le film, puisque tout finalement rentre un peu dans son orbite, mais au moins, elle signale vers autre chose, vers quelque chose d'un peu bizarre, d'un peu difficile à saisir. Est-ce que ça signale vers le réel, entre guillemets, ou la réalité ? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Et ça vient jouer, si ce n'est saper, mais au moins jouer, avec la façon dont le film traite de son sujet, avec une telle grandiloquence ou grossièreté, c'est selon, qui est tellement grandiloquent, cette représentation du pouvoir, ce regard naïf sur le pouvoir, qui finit lui-même par demander à être interrogé. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment filmer le pouvoir comme ça ? Pourquoi il le fait ? Et il y a tellement un sens de une espèce de singularité au film, malgré tout, dans tous ces petits choix, dans toutes ces constructions de personnages, qu'on en vient à interroger et à se demander s'il y a quelque chose de singulier dans ce qui paraît à la base très normatif, c'est-à-dire cette représentation du pouvoir. Je pense que c'est assez légitime en tant que spectateur de s'autoriser à voir ces choses dans le film, et c'est pour ça que je n'ai pas envie de jeter le bébé avec l'eau du bain, pauvre bébé, laissons-le tranquille, et sachons apprécier les qualités qu'il peut y avoir dans le film. Donc voilà, bien que je pense qu'on puisse formuler une critique assez forte du film sur des questions politiques, je pense qu'il y a aussi des choses intéressantes à tirer du visionnage.
Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, notamment en fait sur le côté, comment dire, sur moi les nécessités que j'avais, les envies que j'avais que le film parfois sorte de son dispositif carcéral général, en fait globalement. C'est-à-dire que et dans sa représentation du pouvoir. Et là, je vais le comparer un petit peu. Et je suis navré pour celles et ceux qui n'ont pas vu cette série, mais à The Young Pope. Mais bref, donc en fait, là, la Grazia, elle déploie toute une, le film déploie toute une réflexion sur l'enfermement, sur la carcéralité, bien sûr avec les deux condamnés, enfin les deux prisonniers et prisonnières, Cristiano Appa et Isa Roca. Mais en fait, c'est le Quirinal lui-même, donc le palais présidentiel, il n'est pas pensé autrement dans le film que comme une immense prison. Alors certes, une prison magnifique, hein, mais bon, avec la hauteur du plafond, la lourdeur des décorations, elles n'empêchent pas, voire elles renforcent en fait un sentiment d'étouffement. Et c'est un cadre qui est beaucoup trop pesant pour Mariano. Et là, en fait, là, il y a quelque chose qui est partagé avec The Young Pope et qui faisait en partie la puissance de cette série, qui est vraiment ma série préférée, c'est que Sorrentino, il sait filmer l'architecture italienne et derrière elle, il sait filmer une histoire. En fait, c'est ces espèces de grands espaces vides filmés en diagonale, l'espacement des personnages sous les dorures de leurs fonctions, espèce de mélange en fait dans sa caméra entre contemplation et terreur dans la représentation de ce palais démesuré et qui est vraiment démesuré. Les quelques fois où on a des plans d'extérieur sur le palais, en fait, on se rend compte qu'il est très très grand, enfin, par rapport à l'Elysée par exemple, il est immense, et je trouve qu'en fait il manque à la Grazia, un peu ironiquement, là, avec Jude Law et le réalisateur, il reste parfois un peu trop en retrait, je trouve, pour réussir à vraiment me toucher dans cette Grazia, et notamment parce qu'en fait il y a très très peu de passages d'ouverture sur le reste du monde qui était beaucoup plus fréquent dans la série. Bon, après forcément c'est une série, donc on avait le temps d'explorer le point de vue d'autres personnages, vraiment de regarder le pouvoir autrement aussi, d'avoir différentes par rapport à ce que tu dis de très intéressant, Clément. Ouais, on avait différents aussi des personnages de différents milieux sociaux. En plus, bon, on était dans le cadre très particulier du Vatican, mais où se jouent quand même en fait des rapports de classe entre cardinaux et prêtres et gardes suisses et travailleuses du Vatican. Mais bref, en fait, il arrivait à gérer beaucoup plus, ben, sur une série qui durait plus longtemps, sa gestion du repos dans sa popification, superficialité qu'on peut lui reprocher. Il y avait des moments minimalistes, après parfois des moments particulièrement intenses en termes de forme, qui ici sont trop peu présents en fait, et qui créent, et où pourtant surgit l'émotion. Et je pense en fait notamment à toutes les séquences quand il est dans la campagne embrumée, où d'un coup en fait on est sur une économie de forme, une économie visuelle réduite vraiment à quelques lignes horizontales et verticales, verticales les arbres, horizontales les chemins. Et là, il y a quelque chose qui se passe en fait dans le décalage, d'un moment d'utilité que je trouve assez saisissant et qui là, moi, m'a vraiment manqué. Et comment dire, effectivement limite cette représentation du pouvoir à tout point de vue, mais même sur le plan de l'émotion, puisque certes il veut déplacer le ces questions ultra politiques sur un plan très très intime en enfermant son personnage, mais en même temps il arrive pas particulièrement à me toucher là-dessus.
Moi, je n'aurais rien d'autre à ajouter parce que j'ai trouvé vos interventions particulièrement brillantes. Voilà, je le dis. J'ai eu plus de choses à dire sur The Mastermind, qui, je l'avoue, m'a quand même bien plus passionné. Mais même si, je le répète, j'apprécie la Gratia, je trouve que les questions politiques qu'a travaillé Clément sont particulièrement intéressantes et que son développement là-dessus est particulièrement prenant et en fait juste vrai.
Il y a quelque chose qui m'intrigue un peu dans vos interventions aussi, quand on parlait de la question politique et peut-être du rapport à la réalité politique italienne. Il y a quelque chose d'un peu dans ce que vous désignez de crépusculaire en fait, quelque part, et dans la façon dont c'est une espèce d'image du pouvoir de centre droit qui disparaît. J'aurais effectivement, c'est un président qui est en fin de mandat, c'est un président qui est vieillissant, d'ailleurs il a un régime pour pas qui est tenu par sa femme par sa fille par exemple, admettons que ce soit un film crépusculaire, ce que je peux entendre, il n'y a pas, si je me souviens bien, de coucher de soleil dans le film. C'est bête hein, comme analyse que je vous dis là, mais je trouve que c'est exemplaire de en quoi peut-être le film peut passer à côté, ou en tout cas ne raconte pas tant une question de crépuscule alors que pourtant il le fait. Et on a plutôt une espèce de scansion de déroulement de journée en journée qui se ressemble un peu avec le moment petite clope, le moment cheval, le moment discussion avec ma fille, voilà, qui reviennent comme ça, qui donnent un rythme très agréable au film, qui font que ça passe très bien et qui donnent cette impression de constellation de figures, de personnages, de thèmes qui reviennent et qui finissent par s'intriquer, qui le rendent vraiment efficace, c'est-à-dire qu'on se rend compte que la question du deuil se met à être liée à la question de l'euthanasie. L'euthanasie de l'animal est liée à la question de la grâce. La question d'une grâce devient la question de l'autre grâce, celle qui est divine et celle qui est présidentielle. Donc il y a vraiment une efficace du film dans la façon dont il se tisse. Mais je pense que, de même que finalement tout ce qu'on a dit, cette construction l'empêche à certains endroits, ou en tout cas de prime abord, l'empêche d'aller aborder les questions politiques. Maintenant, il y a tellement de troubles mis, je l'ai dit plusieurs fois, donc je vais arrêter de me répéter, mais tellement de petits troubles ou de petites choses bizarres mises dans ce rythme qui n'enraye pas la machine, c'est-à-dire ça continue de jouer dans le rythme, mais disons que ça fait un objet vraiment singulier, voilà, dans lequel on peut mettre beaucoup de choses.
Oui, tout à fait. Et puis vraiment, en même temps, il y a cette espèce de truc de rupture de ton continue du film. Enfin, tu l'as dit, le film, il est drôle, en fait, aussi, c'est ça. Il est à la fois très, très grave et très, très drôle. Et jusqu'à une dernière séquence post-générique, quasiment, qui donne une espèce de morale au film, mais qui, en même temps, dégonfle aussi tout ce qu'on vient de voir d'un peu empesé, d'un peu solennel, avec des cartons qui racontent l'histoire comme si c'était un vrai biopic, et qui, donc, effectivement, trouble tout à fait la perspective que le film veut donner sur ses personnages, sur ses événements.
Oui, on commence avec, on commence directement, allez, boum, les avions de chasse qui passent, les cartons des articles de la Constitution qui précisent où s'arrête le pouvoir du président de la République italienne, puisque comme on l'a dit, ce n'est pas les mêmes pouvoirs que pour la République ultra-présidentielle qui est la 5e République française, voilà. On a à la fois ce personnage comique de Coco qui est vraiment le vrai ressort comique sur lequel on tire et sur lequel on tirera à la fin. Et comme tu le disais, comme si on dégonflait comme si on dégonflait d'un coup ce ballon de baudruche, voilà, on dit au spectateur, ça va, rigolez un peu, hein.
C'est juste l'euthanasie, il y a quand même un truc bon, mais oui.
Et ben voilà, c'est une très belle conclusion pour la Gratia de Sorrentino. Conclusion à la Sorrentino, finalement.
Oui, mais c'était voilà,
une espèce de petite scène post-générique drôle. Allez, les conseils après la virgule. Le moment des conseils. Je vais vous demander les vôtres. Aubry, on commence avec toi.
Écoute, moi, en prolongement de l'émission sur Kelly Reichardt, je conseillerais justement ce petit retour dans le cinéma des années 70 pour voir justement ce qui pouvait déjà se faire à ce moment-là dans certains films, et en particulier sur les films de Jerry Schatzberg. Donc j'ai mentionné L'Épouvantail, on pourrait aussi parler de Panic à Needle Park, sur Vanda de Barbara Loden. Effectivement, comme tu en as très bien parlé, Juliette, et plus largement sur tout un pan en fait du road movie des années 70 qui a cette espèce de d'énergie, ou plutôt de non-énergie, de déprime constante. Un bon exemple de ça, ce serait Macadam à deux voies aussi. Voilà, je pourrais en citer pas mal d'autres, mais si The Mastermind vous a intéressé, et j'espère que ça vous intéressera, parce qu'encore une fois, c'est vraiment un chouette film, je trouve que c'est un très bon prolongement que de se pencher sur ce cinéma des années 70, cette partie du cinéma des années 70, de voir les ficelles en fait qui sont tendues par Reichardt vers ce cinéma là qui permet aussi de comprendre éventuellement les enjeux actuels, même politiques, du cinéma de Reichardt, enfin, ou même d'un film comme The Mastermind. Voilà un petit tips, parce que je ne vais pas faire non plus une liste de 50 films. Par exemple, la Cinémathèque a fait une rétrospective consacrée au road movie, il me semble, il y a un ou deux ans, avec forcément pas mal de films des années 70, enfin de films américains des années 70. Ça peut être une espèce de bonne watchlist à piocher. Voilà.
Merci Aubry. Juliette, pour ta part.
Oui, moi je voulais parler d'un festival qui est fini, mais qui était quand même génial, qui s'est déroulé à Rennes, qui est organisé par Images de Doc, donc un festival de cinéma documentaire, dont le titre chaque année est Images de justice, et là le thème c'était Filmer son ennemi. Alors bon, même si forcément vous ne pouvez pas aller à ce festival qui est fini, je voulais parler de deux réalisateurs très rapidement qui m'ont beaucoup intéressée et qui sont en train de préparer leur prochain film, donc je pense qu'il faut qu'on garde un œil. Alors tout d'abord, on a une réalisatrice iranienne qui s'appelle Elahi Ismaili, qui a réalisé un court-métrage d'une trentaine de minutes en 2024 qui s'appelle A Move, et en gros elle filme, donc ça se déroule en Iran, elle filme elle qui se rend à une sorte de rendez-vous familial en ne portant pas le voile pour la première fois, et donc pour voir un peu les réactions, donc les appréhensions de sa famille, qu'est-ce qui finit par se dérouler, etc. Voilà, c'est un documentaire qui est extrêmement touchant, qui est vraiment incroyable. Bon, forcément elle nous a parlé parce qu'elle était sur place, de l'actualité iranienne, en étant très touchée. C'est vraiment un film qui s'ancre dans cette actualité-là, au-delà du mouvement Femme, Vie, Liberté de 2022. Donc voilà, je vous le recommande. Et un second réalisateur, c'est Kamal Al-Jafari, qui a réalisé en 2024 Fidaï Film, en reprenant des archives qui avaient été volées par le gouvernement israélien dans un centre de documentation palestinien qui se situait au Liban lors de l'attaque de 82 à Beyrouth. Et donc qui réemploie des archives sur une période très très longue, donc ça va vraiment du mandat britannique à des images des années 80, voir justement réappréhender ces archives sans aucune contextualisation. Donc c'est une forme de cinéma qui est très expérimentale, mais qui est très intéressante, avec des écritures hébreux, parce que forcément c'est la question de, là c'est pas filmer son ennemi, mais c'est utiliser le matériau de l'ennemi, donc comment on l'exploite, donc avec des écritures en hébreu qui sont rayées en rouge, mais en même temps ça amène, enfin c'est très très stimulant comme documentaire. Ça mène à se questionner qu'est-ce qu'on est en train de garder, de quel point de vue on regarde la Palestine de manière générale. Donc voilà, ces deux réalisateurs qui sont hyper dynamiques et qui sont passionnants, donc branchez-vous.
Merci Juliette. Corentin, ta recommandation pour les vacances, oui, puisqu'on n'est pas là la semaine prochaine.
Et oui, pour les vacances, moi c'est plutôt en lien avec la Grazia justement, et avec le côté politique fiction, enfin là ce sera pas tellement de la politique fiction, quoique je conseillerais la mini-série de Marco Bellocchio, Esterno Notte, série de 6 épisodes, ou alors comme lui-même l'a dit, film de 5 heures, sur l'enlèvement d'Aldo Moro. Alors j'ai pas vu le film Buongiorno Notte, et il faut que je le rattrape, je le sais, apparemment c'est génial, mais en tout cas moi je suis en train de voir cette série et je la trouve extrêmement je la trouve passionnante en fait. Déjà le premier plan m'a fait, enfin vu que du coup j'avais pu lire avant sur Aldo Moro et sur tout ce qui s'est passer en fait vis-à-vis de la politique, de la démocratie chrétienne, etc. Les films de Moretti notamment aussi, Pasolini également qui a écrit là-dessus dans Les Écrits corsaires, etc. Enfin bref, et on commence avec une séquence très étonnante où les trois gros dignitaires, on va dire, de l'État, c'est-à-dire le président du Conseil à l'époque, Andreotti, le ministre de l'Intérieur et un troisième dont j'ai oublié le nom, se rendent à l'hôpital au chevet de Aldo Moro. Et là, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on passe d'Uchronie, de politique fiction véritable, où en fait, Bellocchio se demande, et si Aldo Moro avait survécu. Et donc là, je ne pourrais pas vous dire la suite parce que je n'ai pas terminé la série, mais je vous la conseille.
Mais c'est tout le principe de Buongiorno Notte, d'ailleurs, que je vous recommande aussi. Clément, vas-y pour ta part, ta recommandation.
Moi, je fais une recommandation pour ceux qui écoutent l'émission dès sa sortie et ceux qui sont notamment sur Lyon. Jeudi 12 février, on projette Pina de Wim Wenders, un documentaire sur la chorégraphe de danse contemporaine Pina Bausch.
Ce sera demain du coup.
Enfin, ce sera donc le lendemain, ouais. Par rapport aux gens qui écoutent, s'ils sont très ponctuels. Donc n'hésitez pas à venir voir. Et pour les Lyonnais également, en ce moment il y a plusieurs choses qui se passent à l'Institut Lumière comme toujours, mais notamment une rétrospective Raoul Peck. J'ai pas encore eu l'occasion de voir d'autres films de lui, mais j'ai été très marqué dans ma jeunesse par le visionnage de I Am Not Your Negro. Voilà, film sur quelques textes non publiés de James Baldwin, il me semble. Voilà, c'est un très très grand film documentaire que je vous conseille. Et dernier conseil, puisque c'est les vacances, autour d'enjeux de décolonisation et négritude au cinéma, sur Mubi, il y a le deuxième film de Claire Denis, Sans fou la mort, qui est disponible avec Isaac de Bancolé et Alex Deca. Et voilà, c'est un très 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 beau film, très intéressant et passionnant sur ces questions-là. Voilà.
Merci beaucoup. Pour ma part, j'ai aussi corroboré la reco d'aller vers l'Institut pendant les vacances, et notamment donc il y a une très très belle programmation en fait jusqu'à fin mars en général. Donc Raoul Peck, tu viens de le dire, Clément, Christophe Kieslowski, Bruce Willis, ce qui est super, des ciné-concerts de très grande qualité, notamment en fait je vous le recommande, et je vous recommande dans ce cycle de faire attention au film de Claude Sautet, qui est un réalisateur que j'aime énormément et que j'ai déjà mentionné sur ses ondes ou dans ses conseils. Et je vous le recommande notamment pour son art du dialogue, de la mise en scène subtile, c'est clair qu'on n'est pas sur du Sorrentino, et sa façon d'atteindre à des vérités qui sont pour moi toujours bouleversantes. C'est quatre films qui sont présentés, donc Les choses de la vie, César et Rosalie, Max et les ferrailleurs et Une histoire simple, que j'ai découvert il y a deux jours et qui est vraiment, vraiment, vraiment remarquable. Tout ça est particulièrement bien interprété, donc notamment par Romy Schneider, mais aussi surtout très bien monté par Jacqueline Thiedot, qui est une professionnel d'un immense talent et qui a monté sans doute dans Les choses de la vie l'un des plus incroyables accidents de voiture de l'histoire du cinéma. Tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci beaucoup à tous les quatre, Clément, Aubry, Juliette et Corentin, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On ne se retrouve donc pas la semaine prochaine, mais bien dans deux semaines pour parler du nouveau film de Park Chan-wook. Comme d'habitude, ce sera disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. Donc d'ici là, portez-vous bien, reposez-vous bien, partagez-nous. Et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. Et à bientôt, vive le cinéma et vive Transistor.